Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Valérie Petit, députée Agir Ensemble du Nord. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, j'aimerais avoir votre réaction aux images qui nous sont parvenues des États-Unis, le Capitole envahi par des manifestants pro-Trump.
Oui, bah comme beaucoup entre guillemets de démocrates dans le monde, j'ai été très choquée par ces images. Déjà, je veux redire ma solidarité en tant que parlementaire française avec les parlementaires américains, et puis évidemment tous ceux qui sont des défenseurs de la démocratie aux États-Unis. Je crois que ce qui s'est passé au Capitole, hein, et que le président Biden a qualifié de sédition est historique. Alors, c'est historique pas parce que il y a des groupuscules armés anti-gouvernement fédéral qui usent de la violence aux États-Unis. Ça a toujours existé. En revanche, c'est la première fois, et c'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est qu'un président des États-Unis les ait incités à passer à l'acte. Et puis ce qui est exceptionnel aussi, c'est la portée symbolique évidemment pour toutes les démocraties, c'est ce qu'a rappelé le président de la République. Là on a la plus grande des démocraties qui montre sa fragilité, et ça doit tous nous mobiliser parce que la démocratie c'est un bien commun et que rien n'est jamais acquis. Je crois que c'est Tocqueville qui disait, dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Et là, je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il faut refaire démocratie. Il va falloir, à l'heure des réseaux sociaux et aussi de la tyrannie de certaines minorités, reconvaincre et reconstruire et l'état de droit et les libertés. Et ça, c'est vraiment un chantier qui s'ouvre là, devant les yeux du monde, à travers ces images terribles.
Vous parlez des réseaux sociaux. Trump a jusqu'au bout voulu ignorer la réalité. Il a choisi finalement les fake news contre les faits et la vérité.
Oui, ça c'est vraiment un sujet. C'est ce que certains appellent l'ère de la post-vérité. Il nie le droit, il nie les faits. Et ça, c'est vraiment c'est un des grands sujets de notre temps et un grand sujet pour la démocratie. Nous, on va l'aborder en France, hein, dans le projet de loi à venir sur les principes républicains, hein, sur justement la régulation des plateformes. L'Europe a agi, mais la lutte contre les fake news et aussi contre la haine en ligne, parce qu'il y a aussi des appels à la haine qui sont extrêmement important, qu'il faut combattre, y compris de certains hommes politiques en responsabilité, comme on peut le voir là dans le cas de Trump.
Valérie Petit, la campagne vaccinale a eu du mal à démarrer en France. Le gouvernement a dû accélérer le processus. De nombreux élus locaux s'impatientent. Ils veulent mettre à la disposition des Français des gymnases pour qu'on vaccine plus vite et plus. Quel regard portez-vous sur cette campagne vaccinale ?
Écoutez, moi j'essaie d'avoir, c'est aussi le positionnement de mon groupe parlementaire au sein de la majorité, d'avoir un regard constructif. Aujourd'hui, on est quand même dans un moment où la vaccination s'accélère en France et où tout le monde reconnaît que, un, c'est la priorité, et deux, qu'il faut vacciner un maximum de Français. C'est la première arme contre le Covid. Donc ça, c'est quand même un point positif. On en est à 7000 vaccinés, il faut encore accélérer. Moi, ma position, elle est très simple. C'est que je pense que la première stratégie du gouvernement est la bonne, c'est-à-dire qu'il faut que l'État continue de vacciner les personnes les plus fragiles, les plus âgées et les soignants. Et il faut accélérer. Mais je crois que cela ne nous empêche pas d'avoir en parallèle et de lancer en parallèle une seconde stratégie qui vise à vacciner en masse. Et pour ce faire, il faut donner la main aux acteurs locaux et notamment aux élus. Je crois que c'est urgent pour accélérer la vaccination et c'est aussi urgent pour accélérer l'adhésion des Français au vaccin. Après, moi j'entends les critiques et je pense qu'elles sont fondées sur la bureaucratie, c'est-à-dire la difficulté qu'a l'État aujourd'hui à faire dernier kilomètre, que ce soit sur les masques, les tests ou les vaccins. Mais ça, j'ai envie de dire, d'abord, gérons la crise, mais en effet, moi, je ferai partie de ceux qui, après, voudront que l'on tire les leçons d'une bureaucratie qui, là, parfois, confine au non-sens et surtout à l'inefficacité.
Valérie Petit, avec la crise sociale, a été relancée l'idée de créer un revenu universel. On se souvient que c'est une idée qui avait été portée par Benoît Hamon en 2017. Certains députés de droite en parlent aussi aujourd'hui. Vous, en tant que député Agir Ensemble, vous êtes à l'origine d'une proposition de débat public sur ce revenu universel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ?
Oui, alors d'abord rappeler que la droite qui découvre le revenu universel depuis 3 jours a voté contre la proposition de résolution que j'ai en effet portée en novembre dernier pour que enfin on débatte du revenu universel à l'Assemblée nationale. Ce vote, on l'a obtenu parce que, entre guillemets, les deux grandes familles politiques qui ont porté le revenu universel depuis des siècles, c'est-à-dire la famille libérale dont je suis et la famille socialiste, se sont associés pour qu'on mette le revenu universel sur l'agenda du Parlement et du gouvernement. Pourquoi on a fait ça ? Parce que la crise a révélé à quel point, finalement, quand l'activité s'arrête, un grand nombre de Français, je pense aux jeunes de moins de 25 ans, je pense aux ménages modestes, je pense aussi aux indépendants, eh bien, se retrouvent sans rien et pas même le minimum pour survivre et pour rebondir. Alors on a fait beaucoup d'aides, on a fait des fonds de solidarité, mais ça ne peut pas être pérenne. Il faut trouver un nouveau mécanisme, un mécanisme qui protège chaque individu dès 18 ans pour lui garantir le minimum pour entreprendre sa vie. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, le revenu universel est revenu dans le débat, pas que du côté des politiques. Moi, j'ai fait beaucoup de consultations citoyennes pendant le premier confinement, que c'était une des mesures les plus attendues dans le monde d'après. Et c'est vraiment une mesure qui, pour moi, est une mesure, si vous voulez, de liberté, parce qu'il s'agit d'émanciper de la grande pauvreté et surtout de garantir aux Français qu'ils sont protégés contre le risque de pauvreté. Parce que la grande leçon de cette crise, c'est qu'il va y en avoir d'autres. Il va y avoir une crise sociale, il va y avoir une crise économique, il y aura des crises climatiques, il y aura d'autres crises épidémiques. On vit dans un monde de crise globale et récurrente, et donc il faut que chaque Français se sentent armés en cas de coup dur pour continuer d'avoir confiance dans l'avenir, pour continuer de se former, de chercher un emploi, d'entreprendre sa vie, de continuer son activité, que ce soit un commerce, etc. Donc c'est comme ça, si vous voulez, il y avait à la fois une pression citoyenne et un consensus politique à droite comme à gauche qu'il fallait réformer notre système, un peu comme on l'a fait avec la sécurité sociale en 1945, il fallait reposer les choses sur la table, trouver un vrai mécanisme efficace, c'est-à-dire moi je propose une solution qui passe par l'impôt, c'est-à-dire un versement via l'impôt, automatique, sans démarche, pour chacun dès 18 ans. C'est aussi un gros choc de simplification des aides sociales qui aujourd'hui sont devenues très injustes et tellement complexes qu'en réalité elles discriminent beaucoup et elles découragent beaucoup de Français. Donc vous voyez, c'est une très grande réforme, hein, la loi universelle, ça existe depuis Thomas Paine, hein, c'est 1795, et c'est assez historique ce vote parce que enfin l'Assemblée va en discuter et on espère obtenir que le gouvernement le mette en œuvre.
Alors justement, c'est quoi le calendrier, Valérie Petit ?
Alors le calendrier, là on a fait voter donc en novembre dernier qu'il y ait un grand débat qui soit organisé par le Parlement et le gouvernement pour que chacun discute de est-il pour ou contre le revenu universel, et si oui, quel est le mécanisme qu'il propose, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes sur la table. Je propose un mécanisme qui passe par l'impôt, les socialistes proposent une fusion des aides existantes et une extension. Il y a plein de mécanismes différents, donc il faut les discuter. Donc prochaine étape, on doit avec le ministre du Parlement trouver entre guillemets le bon véhicule pour organiser ce débat. En parallèle, on continue d'essayer d'obtenir qu'il soit expérimenté le plus vite possible et on espère que d'ici un an, on puisse avoir un engagement fort du gouvernement. Mais moi, j'ai aussi une démarche parallèle, c'est demander qu'on essaie de l'expérimenter. Voyez, par exemple, la Corse, l'Assemblée de Corse a voté que l'on expérimente le revenu universel tel que moi je le propose en Corse. Je vais pousser cette initiative et faire appel aux territoires volontaires pour proposer que certains territoires soient expérimentateurs.
Valérie Petit, cette semaine, c'est le 6e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Récemment, il y a eu l'attentat contre Samuel Paty, celui contre l'église de Nice. Comment la France peut-elle se prémunir contre de nouveaux attentats ?
Oui, alors c'est évidemment une date, là, je voyais l'hommage qui était rendu par le ministre de l'Intérieur. C'est d'abord un drame pour les hommes et pour les femmes qui ont perdu la vie, que ce soit du côté de Charlie, du côté des forces de l'ordre. Donc il faut se souvenir de ces personnes qui ont donné leur vie, et il ne faut pas qu'elles aient perdu la vie pour rien. Et donc il faut que cette émotion, elle continue. Il faut aussi que, c'est Richard Malka, hein, l'avocat de Charlie, qui disait ça, Charlie, aujourd'hui, c'est devenu une idée, et cette idée, il faut la défendre ardemment. C'est la liberté de penser, la liberté d'expression face au fanatisme. Voilà, cet anniversaire, entre guillemets, de Charlie doit nous rappeler à quel point le combat pour la liberté, il n'est jamais, jamais gagné. Le procès de Charlie, il a été aussi un moment important pour rappeler ça, pour rappeler l'importance de ce combat, pour rappeler de dire qu'il y a des mouvements, des idéologies, des personnes qui veulent la fin de notre société, de notre mode de vie, de nos libertés, et qu'il faut leur opposer un discours de raison, un discours modéré. Ce procès, il était aussi intéressant parce qu'on a entendu aussi un islam modéré qui s'est exprimé avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et donc je pense qu'il faut vraiment que tous les modérés, tous les progressistes et tous ceux qui défendent la République continuent de se mobiliser. Cet anniversaire malheureux doit à nouveau nous rappeler l'importance de ce combat. Alors, vous nous dites sur quoi ça va déboucher. Eh bien, il y a cette loi qui arrive, comme vous le savez, confortant les principes républicains, dont un des objectifs est de lutter contre les séparatismes et notamment l'islamisme radical. Donc les choses bougent. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la société et des Français. Et là, le législateur est en train de durcir la réponse face notamment au terrorisme.
Et parallèlement, il faudra aussi lutter davantage contre les discriminations.
Alors oui, ce projet de loi, il va apporter des avancées importantes, hein, notamment sur la transparence du financement d'un certain nombre d'associations, notamment sur la lutte contre la haine, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment des points importants. Mais en effet, il ne répond pas sur la question des discriminations. Pourtant, elle est fondamentale. Le président l'a rappelé. Moi-même, je suis engagée dans la lutte contre les discriminations depuis plus d'une vingtaine d'années. Je crois aujourd'hui que ça doit être un des combats majeurs. Quand Emmanuel Macron était élu, il disait le projet, c'est l'émancipation. C'était permettre à chacun d'être libre. La première entrave à cette liberté, ce sont les discriminations. Donc pour moi, on doit aller encore plus loin dans la lutte affirmée contre toutes les discriminations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une loi qui est la loi de 2008, qui définit 24 critères de discrimination, mais le droit n'est pas effectif. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de personnes sont discriminées dans un tas d'endroits, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au travail, à l'embauche. On voit bien que le droit ne suffit pas. Donc il va falloir un beaucoup plus grand volontarisme de la part du gouvernement sur les politiques de lutte contre les discriminations. C'est aussi une question de sentiment de justice pour les Français, à mon avis, et pour moi, un combat vraiment de liberté. Beaucoup de Français aujourd'hui sont empêchés de réaliser leur projet, d'être qui ils sont. Et c'est d'abord à cause de ces discriminations. Ça devrait, de mon point de vue, être vraiment un des grands axes de la fin de ce quinquennat.
Valérie Petit, j'aimerais qu'on parle des enjeux de l'égalité femmes-hommes. Les collectivités territoriales avaient jusqu'au 31 décembre pour boucler leur plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle. Dans le même temps, les plans de rattrapage salarial sont passés à la trappe dans les entreprises. Les droits des femmes ont-ils progressé depuis l'élection d'Emmanuel Macron?
Alors là, il se trouve qu'on parle d'un sujet que je connais bien, puisque dans ma vie antérieure, j'ai publié un livre sur l'égalité femmes-hommes au travail. Donc évidemment, l'égalité salariale, c'est un gros sujet. D'abord, il faut rappeler en effet, on était très en retard. Hein, on est en moyenne entre 10 et 15% hein, d'écart entre les salaires des hommes et des femmes. Et la fonction publique n'était pas exemplaire par rapport au secteur privé. Heureusement, ce gouvernement a agi pour qu'il y ait, entre guillemets, un rattrapage de la fonction publique par rapport au secteur privé. Mais dans les deux secteurs, privé et public, on est encore très en retard. Il faut quand même expliquer que ce n'est pas simple. Moi, vous savez, j'ai vu les entreprises réaliser l'égalité salariale en quelques années. Ça veut dire concrètement qu'il faut augmenter votre masse salariale de 10 à 20% et expliquer à l'ensemble de vos salariés que vous allez les priver pendant un certain nombre de mois, voire d'années, de toute prime ou de toute évolution salariale pour faire ce rattrapage. Donc il faut quand même, à la décharge des entreprises, expliquer que c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre. Il faut quand même laisser un tout petit peu de temps, et on est aujourd'hui dans une situation économique très difficile pour les entreprises. Donc ça, il faut quand même l'entendre avant de dire pourquoi les plans de rattrapage sont passés à la trappe. Mais en revanche, il ne faut pas cesser de mettre la pression et sur les entreprises privées et sur les entreprises publiques. Moi, je suis plutôt optimiste sur ce sujet. Après, je pense que c'est aussi la responsabilité d'entreprise, le poids des actionnaires qui aujourd'hui savent qu'une entreprise qui n'a pas réalisé l'égalité ou qui a peu de diversité en son sein est moins performante qu'une autre, c'est aussi la pression des actionnaires qui va faire évoluer les choses dans le bon sens, pas uniquement la pression du législateur ou de l'État.
Valérie Petit, on en parle peu pour l'instant, mais il y a des élections régionales et départementales au mois de juin. Dans votre région, les Hauts-de-France, il va falloir faire face au risque d'une victoire du Rassemblement national. C'est un des enjeux dans les Hauts-de-France.
Alors oui, il y a plusieurs enjeux dans les Hauts-de-France. Le premier enjeu, c'est en effet un enjeu dit républicain, mais comme l'ont par exemple, on l'a dans la région Grand Est, hein, on est quelques régions comme ça à être au bord, hein, à avoir un Rassemblement national qui est aux portes de la région. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce qui guidera mes choix régionaux, c'est que nous devons, nous tous les républicains, de droite, de gauche et du centre, empêcher que le Rassemblement national ne gagne une région. Après, moi, sur la région des Hauts-de-France, il y a cet enjeu-là qui doit nous appeler à la responsabilité. Moi, j'ai dit là-dessus qu'il fallait mettre un peu les égos de côté. Hein. On n'est pas là pour multiplier les listes, éparpiller les voix au premier tour et justement risquer de faire le lit du RN. J'espère que tout le monde prendra ses responsabilités, y compris dans la majorité. Après, il y a deux autres grands enjeux, moi, pour ma région des Hauts-de-France. La première, vous le savez, c'est une région qui est toujours fragile sur le plan de l'emploi à cause de la désindustrialisation. Donc nous, on doit réussir à s'emparer du plan de relance national et aussi des fonds de l'Europe pour vraiment relocaliser une partie de l'industrie chez nous, créer de l'emploi dans une situation qui va être très compliquée. Puis deuxième enjeu, c'est l'écologie. On est en retard dans les Hauts-de-France. Donc, il faut réussir à se saisir des outils de la relance économique pour aussi faire la transition écologique. Encore une fois, dans une région qui a été très touchée par l'industrialisation et qui a payé un lourd tribut du point de vue de l'environnement.
Vous soutiendrez la candidature de Xavier Bertrand, justement, pour éviter un basculement vers le Rassemblement national ?
Alors, moi, je soutiens pas Xavier Bertrand, je soutiendrai ce qui permet d'empêcher le RN de gagner la région. C'est un tout petit peu différent. Moi, je suis dans la majorité. La majorité n'a pas encore décidé si elle ferait ou pas une liste dans les Hauts-de-France. Quand elle le fera, évidemment que j'y serai associée. Mais je serai aussi celle, avec d'autres parlementaires du Modem, d'Agir ou de LREM, à dire attention. Ne jouons pas les apprentis sorciers. Et puis, distinguons aussi Xavier Bertrand, le président de la région, et Xavier Bertrand, le candidat à la présidentielle. Ben, moi, je suis macroniste, je ne soutiens pas un futur candidat à la présidentielle. En revanche, si demain, il y a une menace que le RN l'emporte, je pense que toutes les forces de gauche et de droite devront vraiment prendre leurs responsabilités, comme l'avait fait assez courageusement d'ailleurs le Parti Socialiste au scrutin précédent.
Merci Valérie Petit. Je rappelle que vous êtes députée Agir Ensemble du Nord. Bonsoir.
Bonsoir à vous.